Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, les grandes gueules.
Jordan Bardella, président du Rassemblement National, bonjour.
Bonjour.
Quelle semaine à l'Assemblée Nationale, on va y revenir. On a appris ce matin que le tout nouveau président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale, le député insoumis Éric Coquerel, faisait l'objet de rumeurs sur son comportement douteux vis-à-vis des femmes. Qu'en pensez-vous ?
Je ne commente pas les rumeurs. Je commenterai éventuellement affaire s'il doit y avoir affaire, mais je ne commente pas les rumeurs, désolé.
Circulaire, rien à voir.
Bah, je sais pas, vous avez des éléments, des... Enfin, excusez-moi, je suis pas l'avocat d'Éric Coquerel, mais depuis ce matin, on me dit je peux avoir votre réaction aux rumeurs. Donc je sais pas de quoi il s'agit. Il y a des rumeurs. Bon, bah, il y a des rumeurs.
Donc vous préférez vous intéresser plus à la désignation d'Éric Coquerel
moi,
à la présidence de la commission des finances.
Ce qui m'inquiète s'agissant de monsieur Coquerel, c'est que d'abord hier, l'usage républicain n'a pas été respecté. L'usage républicain, c'est que, d'ailleurs, le président du Sénat, Gérard Larcher, l'avait dit, c'est que le Rassemblement National aurait dû présider la Commission des Finances, puisque il est de coutume depuis Nicolas Sarkozy en 2007, ça a été inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée. La présidence de la Commission des Finances revient à l'opposition, et notamment au premier groupe d'opposition. Donc elle aurait dû revenir à Jean-Philippe Tanguy, qui est un gaulliste, qui a été un des très proche de Nicolas Dupont-Aignan, qui a rejoint le Rassemblement National, qui est élu du Rassemblement National et qui a le CV, je dirais, la compétence économique pour avoir cette fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Et on s'est retrouvé avec une lâcheté absolument inouïe des Républicains et de la droite au sens large, qui a retiré au troisième tour son candidat, notamment Charles de Courson, et qui a préféré mettre Éric Coquerel à la tête de cette commission plutôt que de mettre quelqu'un du Rassemblement National.
Vous dites que c'est vraiment les Républicains.
Oui, parce qu'en vérité, les LR tremblent devant le politiquement correct, et je pense que les LR, en tout cas l'Assemblée Nationale, ont beaucoup plus peur de croiser Sandrine Rousseau dans les couloirs de l'Assemblée et de son jugement que de leurs propres électeurs. Et ça, c'est très inquiétant, parce que je pense que les électeurs des LR sont beaucoup plus proches, si vous voulez, du Rassemblement National que, s'agissant de M. Coquerel, de l'aile gauche de l'extrême gauche. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un là qui marchait avec le CCIF en novembre 2020 dans une manifestation où on criait à l'Akbar à 100 mètres du Bataclan avec des islamistes et un collectif qui depuis a été dissous par le ministère de l'Intérieur. On parle de quelqu'un qui a incité les clandestins à la basilique de Saint-Denis à occuper illégalement la basilique. Et on parle de quelqu'un qui incarne vraiment la branche islamo-gauchiste de l'Assemblée nationale. Bah, j'ai peur, si vous voulez, que la France insoumise fasse de la France le Venezuela. Et que,
non, mais là, précisément, sur le. Non, mais
sur ce poste-là. Pas le coup du Venezuela, sur ce poste-là.
Non, sur ce poste-là, de quoi vous avez des contrôles? De quoi vous avez peur?
Je pense que la volonté de la France insoumise, c'est la destruction de l'État. Voilà. Et c'est, à partir de ce point de vue-là, c'est d'empêcher le bon fonctionnement des institutions. D'utiliser ce poste-là pour aller faire du contrôle fiscal.
Vous avez peur du contrôle fiscal?
Attendez. Si c'est justifié.
Ah, bah alors, je suis très étonné de vous ouais, le patron que vous êtes. Bah oui. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patrons qui comprennent pas et qui sont très inquiets de voir la NUPES prendre des responsabilités aujourd'hui.
Si c'est justifié.
Écoutez, ça m'étonne de votre part. Mais écoutez,
vous savez.
Et puis surtout, il y a un problème de démocratie, tout simplement. Je veux dire, la présidence de la Commission des Finances, elle doit revenir au premier groupe d'opposition. Et quoi qu'on en dise, le premier groupe politique d'opposition à l'Assemblée nationale, avec 80 députés, c'est le Rassemblement
national. Ça veut dire qu'en fait, votre stratégie de respectabilisation du mouvement trouve ses limites, puisque effectivement, au sein de cette commission, on a préféré un Coquerel, un UPS, à un candidat RN.
Non, c'est pas la stratégie de normalisation.
Il y a encore un front républicain, finalement,
non,
en quelque sorte.
Il y a le non-respect des institutions et du fonctionnement démocratique. Moi, je rappelle à tous ces gens que...
Charles de Courson, il faut expliquer ce qui s'est passé. Il y avait un troisième candidat qui s'appelle Charles de Courson et qui est centriste, centre-droit. Bon, il aurait pu se maintenir, il aurait même pu être président, puisque si les autres s'étaient alliés, il pouvait passer devant vous et devant Coquerel. Il a préféré se retirer.
Probablement pour ne pas être élu les voix du Rassemblement national. Mais
pourquoi il s'est retiré?
Parce que probablement, il ne voulait pas. Voilà. Moi, je vais vous dire, entre un LR et la France insoumise, je n'hésite pas une seule seconde
nous.
Mais lui, il a
je
préféré
vote pour le candidat des Républicains.
Il a préféré la France Insoumise. Mais et Jean-Luc Mélenchon l'a appelé pour le renverser.
Exactement, exactement. Mais il y a une forme de.
Pourquoi c'est pas démocratique?
Il y a une forme de collusion entre tout ça parce que Jean-Luc Mélenchon, en réalité, il l'a cherché à le faire oublier pendant la campagne des législatives. Mais la France Insoumise a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été élu grâce au soutien de la gauche et grâce au soutien de l'extrême gauche. Donc on peut pas, si vous voulez, être un adversaire crédible à la retraite à 65 ans, à la casse sociale que va mettre en œuvre Emmanuel Macron, et en même temps vouloir s'y opposer. Donc il y a là une forme de cohérence, mais je suis juste triste aujourd'hui pour les électeurs et les militants de LR qui voient leur cadre et leurs représentants préférer l'extrême gauche et préférer un axe Coquerel-LR plutôt que de préférer des gens responsables du Rassemblement National.
J'ai toujours pas compris pourquoi ça vous fout la trouille comme ça d'avoir un mec d'extrême gauche qui à la commission des finances. Mais il n'est pas tout seul. Non, mais il n'est pas tout seul. Il y a une commission.
On va passer à l'autre sujet. Je crois qu'on a eu la réponse.
J'ai pas eu. On a compris que vous avez votre référence. Léa, Léa. Bon.
Question à Jordan Bardella.
Non, moi j'ai une question sur les députés. La semaine dernière, c'était l'entrée des députés à l'Assemblée. Il y avait un groupe d'écolos qui avait planté un stand avec des scientifiques du GIEC dedans. Moi, j'étais là. Et des scientifiques du GIEC et de l'IPBES, qui sont donc des sommités dans leur domaine, proposaient de faire des espèces de cours accélérés sur les questions dont les députés auxquelles les députés s'intéressaient, sur lesquelles ils avaient des enjeux potentiellement territoriaux. Et on a eu un seul député RN sur les 89 que compte l'Assemblée nationale. Du coup, je me demande si le Rassemblement national s'intéresse aux enjeux environnementaux.
Ah, je pense qu'on s'y intéresse beaucoup plus que les Verts, qui sont, je pense, beaucoup plus préoccupés par l'installation des campements de migrants, l'écriture inclusive et la couleur des cartables que par l'avenir de la planète. Il y a un vrai sujet aujourd'hui dont absolument personne ne parle. On continue à nous expliquer que on va laisser des taxes très fortes sur les carburants pour inciter les gens à acheter des voitures électriques. On nous a d'ailleurs pas expliqué comment est-ce qu'on allait être indépendant vis-à-vis des filières électriques et notamment des métaux rares,
mais ça c'est un autre sujet.
Mais en même temps, vous voyez, il y a l'Union européenne qui vient de négocier un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc si vous voulez, on continue de multiplier le grand déménagement du monde, on continue de multiplier les accords de libre-échange, on continue de faire venir des produits qui viennent de toujours plus loin, qui sont aux antipodes des normes sanitaires, sociales, environnementales de nos agriculteurs et de nos entreprises pour aller importer depuis la terre entière des produits qui sont imbibés de pesticides et qui ne respectent pas les normes sanitaires françaises. Donc ça, c'est la grande contradiction.
C'est quoi le mix
des gens qui sont au pouvoir, d'Emmanuel Macron qui se prétendent écolo. On préfère faire payer, si vous voulez, les automobilistes français qui aujourd'hui n'arrivent plus à remplir le plein de leurs voitures. Et on continue, par contre, de faire circuler des super champions. Comme ça, c'est la contradiction des gens qui sont au pouvoir. Bah, ma solution, ça s'appelle le patriotisme économique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, si vous voulez, le grand déménagement.
Très précisément.
C'est d'abord défendre le nucléaire.
Mais ensuite, parce qu'on ne peut pas avoir un mix 100% nucléaire.
Parce que vous avez parfaitement raison. Mais en l'état actuel des choses, sur le renouvelable, moi je suis très opposé à l'éolien. Parce que je pense que l'éolien est une catastrophe environnementale, que c'est une pollution pour les paysages, et on sait qu'un quart de l'électricité ne peut pas être stocké et qu'un quart du temps les éoliennes tournent à vide. Donc d'abord, il faut commencer par défendre le nucléaire, ce que n'a pas toujours fait Emmanuel Macron. Et on l'a vu avec la réouverture de la centrale à charbon. À Saint-Avold, on est obligé de rouvrir les centrales à charbon parce qu'on a affaibli la filière nucléaire. Or, le nucléaire nous permet d'avoir une énergie décarbonée. Et donc, il faut investir dans les énergies demain, notamment les énergies de la mer, parce que l'un des grands atouts de la France, c'est cet espace maritime qui est peut-être le deuxième le plus important au monde, et d'investir, je crois, dans l'hydrogène.
Mais l'hydrogène, il est produit de manière carbonée aujourd'hui.
Oui, je pense. Non.
On peut 97%.
Non, on peut avoir le débat, mais.
Ah non, mais c'est pas un débat.
C'était l'un des grands regrets d'ailleurs. C'était d'ailleurs l'un des grands regrets de Nicolas Hulot lorsqu'il est parti du gouvernement. Il a dit on n'a pas suffisamment investi, suffisamment mis d'argent dans l'hydrogène. Mais il faut continuer à investir dans la recherche et dans les énergies plus propres. Mais je dis juste qu'en l'état actuel des choses, se passer du nucléaire, c'est suicidaire.
L'hydrogène, il faut dire aussi que l'hydrogène, c'est pas une énergie, c'est un vecteur d'énergie. Donc ça veut dire qu'il faut produire l'énergie auparavant.
Jordan Bardella, vous parliez de
rajouter un élément.
Non, mais c'est important,
que nous dit on parlait du GIEC, le Haut Conseil pour le Climat nous dit que la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre est liées à nos importations. Donc moi, je veux bien qu'on continue à taper sur les automobilistes, Mais l'intégralité du parc automobile français, c'est en termes de particules fines émises, un supertanker. Il y en a 60 000 qui traversent la planète à cause de ce modèle économique. Donc la solution, c'est de rapatrier les lieux de production au plus près des lieux
attendez,
de consommation.
Attendez, on va pas parler des...
Ah bah excusez-moi, je peux...
Il y a plein de sujets.
Olivier, ça t'intéressait beaucoup l'électricité il y a 10 minutes, ça, c'est dommage.
C'est nous qui mettons le débat et on va parler d'autres sujets parce qu'il ne reste que 9 minutes et qu'il y a le pouvoir d'achat qui est la priorité numéro 1 des Français en ce moment. Et le pouvoir d'achat, justement...
Mais l'électricité, c'est intimement lié au pouvoir d'achat.
Oui. Le pouvoir d'achat, il y a un projet de loi qui va arriver à l'Assemblée nationale. On a quand même déjà la plupart des mesures, notamment cette nouvelle aide pour 9 millions de foyers les plus pauvres en France, 100 euros et 50 euros par enfant. Est-ce que c'est la bonne piste, ça? Est-ce que vous seriez prêt à voter ça?
S'il y a des mesures d'urgence, d'abord on regardera le texte dans le détail, mais s'il y a des mesures d'urgence, évidemment qu'on les votera. Mais le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, on se contente de distribuer des chèques aux gens qui sont dans des situations difficiles, qui bénéficient bien souvent des minima sociaux et qui sont la cible des mesures du gouvernement. Sauf que on oublie beaucoup de gens et on oublie notamment les classes moyennes. Et on oublie les classes moyennes qui, elles, sont trop riches au regard des critères pour rentrer dans les minima sociaux et qui ne sont pas assez riches pour bénéficier, pour rentrer dans les cases des gens à qui le gouvernement a fait des cadeaux fiscaux importants depuis 5 ans. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'abord de baisser les taxes. C'est une logique qui est beaucoup moins inflationniste que les distributions de chèques. Il faut baisser la TVA, notamment sur les carburants, l'électricité, le gaz, le fuel, et faire de ces produits des produits de première nécessité en ramenant la TVA de 20% à 5,5%. Il faut un panier de 100 produits de première nécessité, les produits hygiéniques, le riz, les pâtes, où on sort totalement la TVA, un panier de 100 produits, et évidemment, ça va bénéficier en premier aux familles les plus modestes. Et puis, il faut évidemment revaloriser les salaires, parce que tout augmente aujourd'hui, sauf les salaires. Et nous, ce qu'on propose, c'est de permettre aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires de 10%, et cette hausse de salaire de 10% est exonérée de cotisations patronales. Et puis, il faut aussi, j'en termine, réindexer
Que les cotisations patronales.
Que les cotisations patronales.
Donc les salariales, oui.
Exactement, que les cotisations patronales. Et exonérées d'impôts pendant 5 ans. Et dernière mesure, réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Parce que moi, je veux bien que le gouvernement... Oui, d'accord, c'est prévu, mais eux qui les ont désindexées.
Est-ce que vous demandez au gouvernement de reprendre vos propositions?
Je leur demande.
L'idée, c'est ils vont pas reprendre toutes vos propositions. Donc, à quel moment vous serez prêt à voter ce projet de loi?
Écoutez, on est aujourd'hui dans une situation de blocage institutionnel. Elle n'est pas de ma responsabilité. Elle est de la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui n'a pas fait campagne et qui n'a pas voulu faire campagne durant ces élections législatives. La question, c'est pas jusqu'où les oppositions sont prêtes à aller. C'est jusqu'où le président de la République est prêt à amender son projet. Et moi, je lui demande des choses très claires. Est-il prêt, oui ou non, à renoncer à la retraite à 65 ans? Est-il prêt, oui ou non, à renoncer à l'augmentation des taxes sur les carburants et notamment sur l'énergie? Est-il prêt, oui ou non, à instaurer le référendum d'initiative citoyenne, la proportionnelle aux élections?
Pour qu'il n'y ait pas de blocage, il faut aussi que vous fassiez un pas. Ça marche pas que dans un sens. Il faut que chacun fasse.
Ah si, ça marche dans un sens.
Mais non.
Mais si, parce
que. Il est majoritaire, il va pas reprendre toutes vos propositions.
Il n'est pas majoritaire. Bah, il est minoritaire.
Relative, quand même.
Non, il a été mis en minorité.
Oui.
Non, donc, jusqu'où est-il prêt à aller pour débloquer le pays? Manifestement, il a été élu, je ne remets pas en cause son élection, elle est légitime.
Oui.
Mais son programme, lui, parce que se détermine la politique de la nation aux législatives, lui a été défait dans les urnes il y a quelques jours.
Donc, mais vous êtes sûr que les
maintenant, il faut qu'il
s'exprime. Vous êtes sûr?
Et d'ailleurs, la conséquence, la conséquence des victoires RN aux législatives, elle est immédiate. C'est d'abord, un, le fait que le pouvoir d'achat soit mis en premier sujet de l'Assemblée nationale et en premier débat dès l'ouverture des premières sessions qui aura lieu à partir de la semaine prochaine. Et deuxièmement, les aveux timides de Gérald Darmanin sur l'affaire du Stade de France où il reconnaît sa responsabilité, parce que l'autre grand sujet, c'est l'explosion de la violence en France. Le Stade de France l'a montré. Et là, Emmanuel Macron est totalement absent depuis 2 mois. Il n'y a rien. Pouvoir d'achat, sécurité, rien.
Une réflexion, une question d'abord. La première chose, pourquoi je suis plus favorable à la prime Macron qu'à l'augmentation des salaires de 10%? Pour une raison simple, c'est que l'augmentation des salaires de 10% peut être supportée par une entreprise, mais si l'année suivante, le résultat est bien moins bon parce qu'ils ont eu une année difficile, la charge de l'augmentation des salaires demeure. Les primes Macron vont s'adapter à la fluctuation des chiffres d'affaires de l'entreprise.
C'est beaucoup plus clair pour les salariés.
Oui, mais bon, il n'y a pas d'entreprise qui a un CDI avec le carnet de commandes et avec le marché. Donc, il faut être dans le monde réel. Et une entreprise ne peut pas donner des garanties qu'elle n'a pas. Sur la prime, moi, je suis pour une implication des entreprises, une corrélation entre les salariés et l'entreprise liée au résultat, qui est une forme d'intéressement qui fait que bon, sur une mauvaise année, elle n'aura pas à le supporter, et puis sur une bonne année, c'est une bonne année pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous êtes un chef d'entreprise et vous fabriquez des t-shirts. Je vais vous parler de patriotisme économique, comme celui de Étienne, t-shirt de qualité moyenne, hein, bien sûr.
Et pourtant, moultement utilisé.
Et que vous avez deux solutions. La première, vous allez fabriquer ce t-shirt au Maroc, il va vous coûter 0,80. Mm. La deuxième, vous allez le fabriquer en France, il va vous coûter, pour des raisons, de coût du travail et tout, il va vous coûter 2 euros, 2,50 euros. Moi, je trouve l'idée du patriotisme économique, je suis plutôt favorable, bien sûr. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Si vous fabriquez 1 million de t-shirts, vous allez les acheter à 0,80 au Maroc ou à 2,50 en France?
Et donc le consommateur va aller
payer. Ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat.
Le modèle économique que vous défendez, donc, c'est faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs.
Non, c'est pas du tout le modèle. Le modèle, je dis, c'est de revoir aujourd'hui, pour pratiquer le patriotisme économique, il faut que le modèle économique français soit armé face à la mondialisation. Il faut d'abord nous armer face à la mondialisation. Ça, c'est l'étape 1. Et l'étape 2, c'est défendre le patriotisme économique.
La première mesure de patriotisme économique qu'on va défendre, c'est ce que d'ailleurs ont toutes les grandes puissances qui fonctionnent dans la mondialisation, c'est de permettre à l'ensemble des TPE-PME françaises d'avoir un accès prioritaire dans la commande publique. Aujourd'hui, pour avoir dans les cantines des écoles, des collèges, des lycées, pour faire en sorte qu'on dirige et qu'on flèche la commande en priorité vers les agriculteurs de la région ou du pays, c'est très compliqué. Il faut des normes environnementales, sociales, il faut jouer sur des clauses. Or, aujourd'hui, l'Union européenne interdit toute forme de patriotisme économique parce que l'UE, dans la manière dont elle fonctionne aujourd'hui, c'est la concurrence, c'est le tous contre tous. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'inverser en réalité le coût de la distance. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Dans la restauration publique, on va rester sur cet exemple. Dans la restauration collective aujourd'hui, vous avez 75% du bœuf consommé par nos enfants dans les cantines des écoles qui est d'origine importée. Et pendant le même temps, vous avez la moitié des agriculteurs français qui vit avec moins de 300 euros par mois, souvent aide de la politique agricole commune comprise. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'inverser cette tendance. Évidemment, moi, on ment pas aux Français. Il y a des filières de toute manière qu'il sera très compliqué de relocaliser parce que on prend aussi en compte le contexte de mondialisation. Mais je veux dire, c'est systématiquement nous les perdants de la mondialisation.
On ne peut pas la nier la mondialisation. Donc il faut s'y adapter. S'armer face à la mondialisation.
Deux questions d'actualité. Le Covid, la 7e vague, ça repart à la hausse. Pour l'instant, on est dans la recommandation. C'est suffisant?
Non, mais on va vivre durablement avec. Donc, on ne va pas se poser la question tous les deux mois du reconfinement, de la fermeture des écoles, etc. Il y a quand même un petit truc encourageant là, dans ce que j'ai entendu, notamment de la part d'Olivier Grégoire, c'est que pour la première fois, on nous parle de responsabilité. Ça fait 2 ans et demi qu'on nous infantilise, qu'on nous explique qu'il faut mettre des masques sous la douche, qu'on doit remplir des petits papiers quand on sort de la maison, etc. Bon, là, j'entends parler de responsabilité, on va faire confiance aux Français, donc ça va dans le bon sens. Mais, je veux dire, on commence à avoir du recul sur l'épidémie. Je pense que cette vague, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je regarde ce que dit le consensus scientifique, et je regarde aujourd'hui beaucoup de médecins dire, au regard de l'arrivée des vacances scolaires, de la fermeture de facto des classes dans les écoles, du recul qu'on a sur l'épidémie. On connaît les publics à risque, on sait que beaucoup de gens qui sont à risque vont probablement mettre le masque cet été. On peut se laisser une marge de tolérance et de confiance aux Français. Je suis résolument opposé à la remise en œuvre du pass vaccinal.
Alors, justement, le pass vaccinal, parce que c'est le 31 juillet.
Mais c'est une mesure.
Il faut qu'il s'arrête définitivement.
Nous avons voté contre au Parlement européen parce que c'est une restriction de liberté qui est disproportionnée. Que vous soyez vacciné aujourd'hui on nous parle de sous-variants Omicron, que vous soyez vacciné triple dose, de toute manière, vous avez quand même les mêmes chances d'attraper le Covid. Moi, je suis pour la vaccination, j'ai mes 3 doses. On connaît les publics à risque. Donc, les publics à risque peuvent se faire vacciner si elles le souhaitent.
Plus jamais le pass sanitaire.
Mais ça ne sert à rien. Et les médecins, d'ailleurs, y compris des voix très officielles que vous invitiez sur les plateaux de télé, expliquaient que le pass vaccinal était une mesure politique. Oui. Quand vous avez 95% de la population qui est vaccinée, c'est une mesure politique. Donc, je veux dire, on va pas bloquer l'économie, on va pas mettre le pays à l'arrêt. Il faut être pragmatique, il faut suivre la courbe et pas arrêter de faire peur aux gens et de gérer ça de manière
ni
dingue et de manière complètement hystérique. Mais je pense qu'en l'état actuel des choses, ça ne se justifie pas. En tout cas, c'est pas. Je veux dire, je lis les médecins, j'écoute les médecins que vous invitez sur les plateaux. Pour l'instant, je pense qu'on peut faire confiance aux Français.
Une dernière question. Quelle va être la répartition des rôles entre la bosse, Marine Le Pen, et vous?
Vous êtes président
parce
du Rassemblement
que vous
national.
Êtes président du Rassemblement national et le président du groupe Rassemblement national.
D'abord, je
à la
suis président du Rassemblement national par intérim. Il y aura un congrès qui sera organisé à l'automne.
D'accord.
Que nous organiserons, l'élection interne aura lieu à la rentrée. Le congrès aura lieu à l'automne. Peut-être qu'il y aura plusieurs candidats. En tout cas, c'est un exercice de démocratie intéressant.
C'est Marine Le Pen qui va décider s'il y a des candidats ou pas.
Non, ce sont les gens du Rassemblement National qui décideront si oui ou non ils souhaitent se présenter. Louis Alliot a indiqué qu'il serait peut-être intéressé par une candidature. Donc il y a pas de débat. Et quant à moi, je proposerai aux adhérents de poursuivre le chemin qu'on a tracé ensemble depuis un an et qui nous a permis, à travers cette candidature à la présidentielle et puis aux législatives, d'enregistrer des records 2027, de voix très importants.
Vous serez candidat à l'élection présidentielle en 2027?
Non, mais d'abord, 2027, c'est très loin.
Oui, donc, bien sûr, mais c'est en même temps très
court. Vous nous laissez un peu le temps, on va d'abord évidemment organiser ce congrès. Marine, quant à elle, même si elle ne préside plus le RN, assure la tenue du groupe à l'Assemblée. Non, j'en rêve absolument pas.
La présidentielle, vous n'y pensez jamais?
Non, je pense à la réussite de nos idées. C'est pas de la langue de bois.
Pourtant, vous êtes rasé de près.
Parce que je me suis rasé ce matin.
Merci Jordan Bardella, lundi 10h habitant, Didier Giraud, Thomas Porcher.